Donc, je rejoins un peu de séance qui me surprend. Je remercie. Je vais commencer par appel, si ça vous convient. Donc, sans prendre ma documentation, Michel Lalongue.
Présent.
Madame Zéla, je vais vous donner un point à M. Chérovin. Bertrand Amier. Nicolas Bobin, Jean-Luc Boulet,
présent.
Marie-Christine Cabrera, de procuration à l'armement, Catherine Calmette, de procuration à Michel Ballon, Valérie Savant, Monsieur Thérobin, Tate Bissatica, de procuration à Jean-Luc Boulet, Lionel Rosé, Lucien Pizier, de procuration à Bruno Roman,
présent.
Justine Montoya, Pascal Radio, Alain Roman, et qui est un petit jour une procuration à Jean-Paul. Donc nous soumettons aujourd'hui à correction de trois procès-verbaux, celui du 17 novembre 2020, du 4 février 2021 et du 10 février 2021. Est-ce que vous avez des remarques? Pour le procès des. Pour concernant celui du 17 novembre 2022, je propose de procéder au vote. 2020, pardon. Je propose de vote contre. Attention. Après, je vous remercie. Concernant celui du 4 février 2021, contre. Attention. Après, je vous remercie. Concernant celui du 10 février 2021, contre. Attention. Après, je vous remercie. Je vous rends compte, comme d'habitude dans chaque conseil municipal, des décisions qui ont été prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, première décision prise le 18 février 2021 concernant les marchés de travaux sur la restauration de la façade sud et du chevet de l'église Saint-Gilles. Donc, c'est concernant le marché CRIF pour les travaux afférents à la restauration de la façade sud et du chevet de l'église Saint-Gilles pour un montant de 151 696,84 € hors taxe, avec les entreprises suivantes, concernant le lot 1, grosses œuvres, maçonnerie, enduit et façonnage, avec la SGRP Julien Sauvet, ayant son siège à l'Extour pour un montant de 149 986 € hors taxe. Lot 2, concernant les vitraux, avec la société Atelier Vitrail du Mont-Royal, ayant son siège à Montrégeau pour un montant de 1 710 €. Les dépenses sont prévues au budget primitif 2021 sur le compte 21-31-8. La deuxième décision qui a été prise le même jour, toujours sur les marchés de travaux, sur la réalisation d'une aire de jeu en entier accessible. Donc, il sera souscrit à un marché de travaux afférents à la réalisation de cette aire de jeu, avec la SARL Loisirs Diffusion et un compte siège à Palmier pour un montant de 39 968 €. Évidemment, ces dépenses sont prévues aussi au budget primitif sur le compte 21-38. Une troisième décision, prise le 3 mars 2021, le marché de maîtrise d'œuvre, travaux de mise en activité du rez-de-chaussée de la mairie. Donc là, il sera souscrit un contrat de maîtrise d'œuvre, donc afférent à ces travaux, avec le cabinet d'architecture Heinrich Mélin, qui sont situés sur Toulouse, pour un montant de 4 200 €. Ces dépenses sont prévues aussi au budget, compte 21, article 21-311. Une quatrième décision, et dernière, je vous rendrai compte, le 11 mars 2021, sur le marché de maîtrise d'œuvre, travaux de mise en activité pour le rejet de la mairie, donc pour cette AMO, il a été réalisé avec le cabinet Arima Consultant, qui est situé à Paris, pour un montant de 3 150 €. Bien sûr, ces dépenses sont prévues toujours au budget, sur le compte 611. Je proposais de passer au point de délibération, état d'assiette des coupes et forêts en forêt communale, exercice 2021. Jean-Paul, vous êtes un peu à madame Bertrand, peut-être pour la ah oui, bien sûr.
Gracias. Coupe en forêt communale, exercice 2021. L'Office national des forêts ONF planifie chaque année pour le compte de la commune, dans le cadre des aménagements forestiers, les actions à mener dans les forêts pour l'engager ou bâtir à l'appui des documents opérationnels rédigés à l'issue de l'étude du milieu. Madame le maire présente au conseil municipal l'état d'appel concernant les coupes à asseoir 2021. En forêt communale, relevant du régime forestier, est proposé par l'ONF comme suit. L'ONF, conformément à l'aménagement forestier, prévoit pour l'exercice 2021 un passage en coupe dans les parcelles 40C, 34C et 37B. La coupe prévue dans la parcelle 10A sera reportée car des travaux de broyage du sous-étage sont à faire. Les coupes prévues dans les parcelles 23A, 24A sont reportés car l'acquisition de renouvellement par les semis est insuffisante. Vous avez le tableau de la sieste qui précise que les ventes, ces ventes en totalité pour ces trois parcelles, les modes de commercialisation prévisionnels, pas seulement. Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l'offre du droit d'accord avec les municipalités.
Vous avez des questions? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Après, je m'assigne. Passons au point 2, concernant le syndicat d'énergie de la Haute-Garonne, sur l'extension de réseau, attention à un pionnier, affaire 7, DC 1276. Je vais la parole.
Madame le maire informe le conseil municipal que concernant l'extension du réseau basse tension communal de la rue de Pigeonnier, le ZEG a réalisé l'étude de l'opération suivante. Extension du réseau basse tension communal de la rue du Pigeonnier comprenant la fourniture et pose une boîte de dérivation sur le câble basse tension souterrain existant en bordure de la parcelle C 1524. La création d'un réseau souterrain en basse tension de 39 mètres de longueur en câble HN33S33, 3 fois 95 mm², sous fourreau de diamètre 160 mm, jusqu'à coffret de coupure réseau REMBT 4D, fourni et posé en bordure dans la parcelle C285. Compte tenu des règlements applicables aux aigles, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit. Part ZEG 4 050 €. Part restant à la charge de la commune, estimation, 6 076 euros, pour donc un total de 10 126 euros. Avant de planifier les travaux correspondants, le ZEG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière. Madame le maire propose à l'Assemblée délibérante d'approuver le projet. J'ai décidé de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain frais du ZEG imputé à l'article 6554 de la section de fonctionnement du budget communal.
Est-ce qu'il y a des questions? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Après, je m'assigne. Action point 3, autorisation de supprimer les documents du fonds de la médiathèque municipale. Je la parole à Jean.
Merci. Le désordage est une opération qui consiste à retirer du fonds de la bibliothèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire. Les collections de bibliothèques sont en effet la résultante d'un choix qui doit être cohérent. Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l'objet d'un prix régulier, une espèce de désordage, qui s'effectue en fonction des critères suivants. La physique du document, nombre d'exemplaires, date d'édition, nombre d'années pour les portraits, valeur littéraire ou documentaire, qualité des informations et l'existence ou non du document d'institution. Il est proposé à l'Assemblée que, selon le retard, les ouvrages pourront être cédés gratuitement à des institutions ou des associations, ou être vendus ou détruits, et si possible, valorisés ou papiers. Conséquence, Madame le maire propose à l'Assemblée, dans un premier point, d'autoriser dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent chargé de la bibliothèque municipale à sortir les documents de l'inventaire et les prêter selon les modalités administratives qui conviennent, donc suppression de la base bibliographique, suppression de toute marque de propriété sur la commune sur chaque document et suppression des fiches, de donner son accord pour que les documents soient selon leur état vendus au tarif de 1 euro symbolique à l'occasion de vente organisée par la bibliothèque municipale, soit dans ses lieux, soit dans les lieux de manifestation locale d'événements particuliers. C'était donc un titre gratuit à des institutions ou des associations qui pourraient avoir besoin, détruire si possible le côté comme matière recyclée. Dernier point, donc, d'indiquer que chaque opération de désherbage, d'élimination des ouvrages sera constatée par le CEPAL, signé par la maire, mentionnant le nombre de documents éliminés et leur destination, lequel sera ajouté un état complet de ces documents. Donc, le nombre de documents est numéro 1.
Vous avez des questions? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 4, information d'analyse de l'administration et de technicité.
Donc, instauration de l'indemnité d'administration et de technicité. Bon, vu le Code général des collectivités locales, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 février 84 précité, vu le décret 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité, vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'État numéro 131-247 et 131-248 du 12 juillet 1995, autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement. Vu l'avis du comité technique en date du 2 mars 2021, vu les crédits inscrits au budget, considérant que, conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes plus visés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. Madame le maire propose à l'Assemblée délibérante de décider ce qui suit. Article 1. Bénéficiaire. Décide d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, hein, le décret 2201 et l'arrêté du 14 janvier 2002, l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres d'emploi suivants. Donc ça concerne la filière police municipale dans les grades de gardien brigadier, brigadier, brigadier chef principal. Dans les fonctions, bien sûr, police municipale, le montant annuel de référence pour le gardien brigadier est de 469,88 €, pour le brigadier de 475,31 €, le brigadier chef principal de 495,93 €. Un coefficient maximum de 8 peut être appliqué et pas au-delà. Donc, attribution individuelle décide que le maire, conformément au décret 91-75, fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires en fonction des critères suivants. Selon la valeur professionnelle de l'agent et sa manière de service, appréciée notamment à travers l'entretien professionnel en place au sein de la collectivité. La disponibilité de l'agent, son assiduité. En outre, la révision à la hausse ou à la baisse de ces taux pourra être effectif dans le cas de modification substantielle des missions de l'agent. Article 3. Versement. Décide que les indisponibilités physiques, il serait fait application des dispositions applicables aux agents de l'État, le décret 2010-997 du 26 août 2010, le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité mensuelle. Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. Article 4. Date d'effet. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2021. Article 5. Crédits budgétaires. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Article 6. Exécution. Le maire et le comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise aux représentants de l'État dans le département pour contrôle de l'égalité.
Est-ce que vous avez des questions? Je propose de procéder au vote. Contre? Abstention? Après, je m'assume, nous passons à la déclaration 5 concernant la convention Petite Ville de demain. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants et à leur intercommunalité et qui exerce des fonctions de centralité et présente des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leur, pour, afin de leur donner les moyens de concrétiser leur projet de territoire, pour conforter leur statut de ville dynamique où il fait bon vivre et respectueux de l'environnement. Ce programme positionne sur la relance en faveur des territoires. Il ambitionne de répondre à l'émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Pour répondre à cette ambition, Petite Ville de demain est un cadre d'action conçu pour accueillir toute forme de contribution, au-delà de celle de l'État et des partenaires financiers du programme, le ministère, les ministères, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, l'Agence nationale de l'habitat, CNMA, l'Agence de la transition écologique. Les collectifs signataires ont dûment et conjointement exprimé la candidature au programme le 30 novembre 2020, que nous avons fait, avec aussi les communes de Cazères et de Marseille-Tolosane, appuyées par les communes Cœur de Garonne. Nous avons reçu le 21 décembre 2020 un courrier du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour nous informer que nous avions été sélectionnés. La première convention d'adhésion au dispositif Petite Ville de demain a pour objectif d'acte et l'engagement des collectivités bénéficiaires et de l'État dans le programme Petite Ville de demain. La convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de la signature de la présente convention, le projet de territoire devrait être formalisé, notamment par une convention OFDOFC. La présente convention a pour objet de préciser les engagements réciproques des parties et d'exposer les intentions des parties dans l'exécution du programme, d'indiquer les principes d'organisation des collectivités bénéficiaires, les comités de projet et les moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires, de définir le fonctionnement général de la convention, de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à leur réalisation, d'identifier les aides du programme nécessaires à l'élaboration, la consultation ou la mise en œuvre du projet de territoire. Est-ce que vous avez des questions? Je propose de procéder au vote. Contre, abstention, après je vous remercie. Nous passons au point 6, approbation du pacte de gouvernement de la communauté commune, Cœur de Garonne. Donc, vous êtes en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions sur ce pacte de gouvernement? Je propose de procéder au vote. Contre, abstention, après je vous remercie. Nous passons au point 7, chambre régionale des comptes d'Occitanie, communication du rapport d'observation définitif et de sa réponse concernant la gestion de la commune de Rien pour les actifs 2013.
Donc nous devons vous transmettre le rapport de la Cour régionale des comptes qui est effectué, dont nous avons reçu ces derniers temps la dernière mouture. Donc le rapport d'observation définitive ROD2, commune de Riom. Donc au terme de l'article L211.3 du Code des juridictions financières, par ses contrôles, la Chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'Assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Riom a été ouvert le 3 mai 2019 par lettre du président adressée à Mme Jennifer Courtois-Périssé, ordonnateur en fonction. Un courrier a également été adressé le 20 octobre 2019 à Mme Christiane Bistos-Maury, précédent ordonnateur. En application de l'article L243.1 du Code des juridictions financières, les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 12 novembre 2019. Lors de sa séance du 5 décembre 2019, la Chambre a arrêté des observations provisoires qui ont été transmises à Mme Courtois-Périssé et Mme Bistos-Maury en qualité d'ordonnateur précédent. En a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des extraits les concernant ont été adressés à des tiers après avoir examiné les réponses reçues et entendu la personne qui avait sollicité une audition La Chambre, dans sa séance du 15 septembre 2020, a arrêté les observations définitives présentées ci-après. Comme suite à la transmission du rapport de la CRT, chacun d'entre vous, il vous est présenté ses 5 recommandations et projections de l'encours de la dette et de ses annuités. La première recommandation était de régulariser les modalités de mise à disposition de la piscine communale conformément au Code général de la propriété des personnes publiques. Ceci est totalement mis en œuvre. Recommandation, veillez à remplir pleinement les dispositions de l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales en renforçant la fiabilité et la complétude des documents budgétaires et leurs annexes. Ceci est totalement mis en œuvre. Autre recommandation, mettre en place un dispositif de provisionnement pour les cas prévus à l'article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales, totalement mis en œuvre. Fiabiliser et mettre en cohérence l'état de l'actif et l'inventaire en lien avec le comptable public, en cours de réalisation en lien avec la trésorerie. Dernière recommandation, adopter une stratégie d'investissement soutenable formalisée de façon globale dans un plan pluriannuel d'investissement présenté au Conseil municipal. Un PPI sera formalisé dès l'élaboration du prochain BP. Je vous présente le tableau 32 qui est la situation bilancielle prospective. Et j'attire votre attention notamment en termes d'encours de dette, donc de 2018 jusqu'en 2023. Dans la partie encours de dette, déduction de l'encours transférable, c'est-à-dire de cette dette, nous avons retiré ce qui nous est reversé par la communauté de communes au sujet des emprunts dont ils assument le remboursement. Donc 2018, nous avions 1 763 500 €, 2019, 1 652 448 €, 2020, 1 501 720 000 €, 2021, 1 464 568 €, 2022, 1 347 721 € et 2023, 1 215 154 €. Vous pouvez constater que la capacité de désendettement net en année, donc de 2018, 9,8 années, 2019, 11,3, 2020, 18,1, 2021, 8, 2022, 7,5 et 2023, 6,9. Vous pouvez constater que 2019 et 2020, il y a une capacité de désendettement qui avait un petit peu sérieusement augmenté due aux diverses régularisations que nous avons fait durant le dernier budget. Voilà. Donc le seuil prudentiel est établi à 10 ans. Focus donc sur la dette de la commune d'Orion. Donc de 2021 jusqu'en 2026. Donc nous avons, je vous ai indiqué, une annuité brute. Donc qui correspond à 228 608 € pour 2021 et qui s'égrène jusqu'en 2026 pour atterrir à 72 129 €. Cette annuité brute prend en compte la totalité des emprunts, y compris ceux payés par la communauté de communes. En dernière ligne, vous avez l'annuité commune d'Orion, c'est l'annuité véritable que nous remboursons tous les ans. Donc en 2021, l'annuité de la commune d'Orium s'établira à 65 402 € et 73 581 en 2022, 2023 181 776 € 2024 190 015 € 2025 198 218 € et 2026 158 808 €. Merci de votre attention. Si vous avez des questions.
Vous avez des questions?
Sur la lecture des recommandations, mais moi j'ai vu le rapport dans le détail.
D'accord. En fait, on n'a pas formalisé le plan pluriannuel d'investissement, mais pour autant, en fait, on le fait de façon informelle, mais c'est vrai qu'il faut le formaliser pour que tout le monde puisse y avoir accès.
Certainement. Et en plus, ça traverse une vision claire des choix de la commune à une municipalité. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, alors, on ne peut pas, à un moment, arrondir les uns et découvrir d'autres investissements. Beaucoup de choses. La totalité de la capacité d'investissement de l'Orient, elle doit être mobilisée. C'est aussi ce qui est dit dans le rapport. Le rapport dit, comme on dit, l'excédent de fonctionnement. Pas des marges de manœuvre très importantes et qu'on est très fragile. Le rapport dit, je suis heureux de voir, parce que vous demandez, quand on parle des fois on dénie complètement pour montrer les choses, on a parlé ici plusieurs fois d'occupation des communes de communes et de la dotation si bonne, et elle note sur la fin du rapport, dans un paragraphe quand même relativement important et consacré à ça. La fragilisation de des finances de la commune d'Orient par rapport au CIVOP. Voilà.
Alors, c'est pas que la fragilisation, mais en effet, le CIVOP est un point sur lequel il faut être vigilant et c'est ce qu'on échange sur chaque conseil et qu'on partage, je pense, à chaque conseil.
Moi, je dis qu'il y a une partie réservée à ça qui est intitulée risques liés au CIVOP. Donc, quand la Cour régionale des comptes parle de risques,
et alors, s'il n'y a pas de risque, et vous voyez que ce n'est pas incohérent par rapport au discours qu'on porte nous depuis le début, aussi en échangeant avec vous, c'est parce que c'est ce qui est aussi à nos échanges qu'on a pu avoir avec eux, et que c'est un point d'alerte sur la fragilité du CIVOP en effet.
Voilà, que je mets en relation directe à la page 15 du rapport, qui fait apparaître qu'à un moment donné, les économies de transfert de charge ont pu être réalisées avec certaines des temps, peut-être pas tous, pour le printemps, peuvent exister. Il y a des éléments positifs du transfert de charges à la commune de commune, notamment l'entretien du gymnase ou autre. Ou non.
Vous parlez d'une économie, ce n'est pas pour nous. Hein.
Je suis d'accord. Cette mutualisation partielle a permis à la commune de Rire de réduire le montant à verser à l'intercommunalité de façon souvent. C'est marqué par le 15 du rapport.
Non, parce que oui, le problème, c'est que là, on avait un désaccord sur ça, dans le sens où. Parle du fait qu'il y a une partie qui a été prise en charge par les communes, les autres communes qui n'y participent pas jusqu'à maintenant. Sauf que ce qu'il faut compter sur Gina, c'est quand même qu'on nous prend 27 000 euros de plus de charges d'investissement qu'on n'avait pas par ailleurs.
Je suis d'accord. C'est un gros souligné aussi, ici. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand on regarde réellement ce qui indique réellement la commune de Rien pour avoir un plan d'investissement plus audacieux derrière. C'est justement de bien regarder ce qu'on pourrait être en fait.
Et ça aussi, je vous retrouve complètement, c'est quelque chose auquel on milite depuis avant même 2014.
Vous n'aviez pas les mêmes échéances de temps, temporelles et de compétences par rapport à la communauté de communauté et nous, ce qui nous handicapait, votre priorité, c'était la piscine. Si j'ai bien compris, le fait que la charge piscine n'ait pas pu être transférée, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la communauté de communes l'est complètement rayée de sa part.
C'est pas tout à fait ça. Donc c'était l'engagement du précédent président, M. Issaguer, le président de la communauté de communes du Savès, avec pour objectif effectivement de reprendre cette compétence. La fusion est arrivée là-dessus. Différents échanges au moment de la fusion ont fait apparaître la nécessité de transférer les piscines de l'ensemble du territoire. Il a été décidé dans un premier temps de commencer par gérer les compétences qui étaient nôtres, d'arriver à maîtriser avant d'en accueillir de nouvelles au Chartelet qui est déjà très important au niveau de la 3CG, la communauté commune Cœur de Garonne. Donc ce dossier est pour l'instant en suspens. Il est toujours souhaité par les communes, ça paraît partie des communes, parce que ce n'est pas une amie possédant une piscine, mais encore étude.
Oui, aujourd'hui, il y a une volonté de l'ensemble des maires qui ont une piscine à la communauté de communes de le transférer. C'est un engagement qu'on a vu du président avant l'élection municipale pour présenter un programme qui était fidèle et peut-être à ce qu'on pouvait obtenir, mais c'est allé voir Jean-Yves Pellier qui était président du SAVES. Donc, il s'est engagé à reprendre la piscine. Entre-temps, il y a une réfusion intercommunale qui a un peu ralenti les choses, mais c'est quelque chose qu'on porte toujours. Chose qu'on a commencé à faire de façon vraiment indirecte, lorsque la communauté commune a payé la moitié de l'enseignant du maître nageur pour les scolaires.
Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où c'est une volonté de la commune de posséder une piscine municipale, où c'est à un moment donné, je ne vais pas dire une obligation, mais un conseil fortement pour la commune de la région de l'école, je ne vois pas l'Assemblée du conseil communautaire pouvoir aller contre ça, même si c'est son choix, c'est sa décision, mais on verra quelle sera sa décision à ce moment-là. Surtout que dans le rapport de la Cour régionale des comptes, il y avait quand même un rapport d'observation lié à la communauté de communes qui explique quand même qu'elle finance une grosse partie sur ses fonds propres, qu'elle avait la marge de manœuvre. Alors je comprends qu'après une fusion, à un moment donné, l'important c'est de pouvoir faire déjà ce qu'on a à charge. Voilà, maintenant, financièrement, c'est supportable. C'est ce qui est concret là-dessus, c'est pour ça que la Cour des comptes ne nous encouragerait pas à aller transférer quelque chose qui n'est pas supportable pour le PC. Et c'est bien noté sur ce rapport-là. Le rapport de la Cour des comptes souligne aussi qu'à un moment donné, les charges de fonctionnement auraient été notées quand même le principal handicap à dégager un excédent de fonctionnement pour l'investissement de l'année.
Pas que si aussi on a un faible dynamisme aussi des recettes, je pense que c'est lié aussi.
Oui, comme il dit, on a un faible dynamisme des recettes, mais je ne parle pas l'aspect fiscal, mais l'aspect fiscal de la marge de manœuvre.
Alors je ne pense pas tellement à l'aspect fiscal, mais je pense aussi c'est à comment on peut créer des recettes. Et c'est justement aussi pour ça qu'on propose le projet au-delà de la sécurisation par cours de français sur la commune, de créer une maison choisissinaire de santé ou une maison médicale qui nous rapportera des loyers à terme, ce sera un investissement, mais là aussi, je pense aussi, par la fiscalité, vous avez vu, on n'a jamais touché, et c'est aussi une volonté, et du coup, c'est trouver aussi ces ressources-là hors fiscalité.
Déjà, la fiscalité, c'est pas très populaire, moi, mais avant d'y toucher, il faut que ça fasse quand même des choses significatives, je ne les apporterai pas, et même pas très populaire.
Mandat d'autres arbitrages au vu de la situation. maximum que nous pouvions maîtriser. Mais en fait, ce que ça se dit, c'est qu'il n'y a eu que des investissements qui étaient nécessaires, en effet. Et sur la question du plan pluriannuel d'investissement, c'est un formalisme qu'on n'a pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis le début du mandat. On fait des analyses prospectives en partenariat avec l'EPD pour savoir justement pouvoir réajuster chaque année un peu plus notre plan et l'affiner. Maintenant, il faut juste qu'on le formalise pour que tout le monde ait cette visibilité et qu'on puisse le mettre au débat aussi.
Vous êtes bien de parler de cela. Période Covid, hein, qui peut avoir aussi son incidence, au niveau du rapport octobre 2020, ce qu'ils ont pu écrire, quand même, si l'analyse du rapport s'est terminée en 2019, ils ont écrit en 2020, ils soulignent que pour l'instant, en fait, la partie incidence Covid sur la commune de Rion est négligeable, même si.
Elle est autour de 30 000 euros. Elle est autour de 30 000 euros. Mais pour autant, mais en sans comptabiliser. Non. Sans comptabiliser.
6 kilos.
Non. Elle sans comptabiliser la perte de recettes, 30 000 euros au niveau des achats supplémentaires et consommables et qu'on a pu avoir en plus. Par contre, là je faisais le lien par rapport à votre connaissance par rapport au CIVOM, c'est-à-dire que le CIVOM, lui, a une charge beaucoup plus importante en matière de personnel, parce que du coup, il faut passer plus souvent, en matière de consommables, de perte de recettes. Du coup, voilà, c'est pour ça que quand je dis en prenant aussi le CIVOM, enfin voilà, la question de la crise sanitaire, tout est lié.
Non, mais c'était juste pour faire le point que, la partie hypothèse des endettements de la commune de Rion pour pouvoir faire un investissement, on va dire, positif sur les années futures, jusque-là, la partie Covid ne pouvait en rien. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il faudra surveiller, notamment sur le CIVOM, puisque les charges de fonctionnement ici sont surveillées, dans le rapport, et d'autant plus que l'impact Covid peut faire des rappels de CIVOM plus rapidement.
Mais ce que je dis, c'est déjà le cas, donc justement, ça impacte déjà, alors que ce n'est pas des rappels, mais ça impacte déjà les finances du CIVOM. Le rapport ne faisait pas le rapport du CIVOM.
Ouais.
Et moi, en tout cas, je le dis en toute transparence. Voilà, c'est des choses que nous, on perçoit déjà. Voilà, c'est pour ça que on est prudent, on investit, on continue nos investissements, comme vous voyez. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un fonds, j'espère, qui est meilleur pour le public, donc pour les premiers, c'est super. Voilà, donc on continue à améliorer la ville. Et d'ailleurs, je remercie Benjamin Fourignan, Pascal Orazio, et je vous dis plein de gens qui vous ont aidé, donc je te laisserai peut-être les remercier. Parce que voilà, parce qu'à la fois, on investit, on cherche des subventions, mais on a aussi des personnes qui donnent de leur temps. Aussi, on va faire de l'économie à la ville et continuer à avoir un grand volume d'investissement sur la ville.
Sur le budget 2021, il y a eu quand même un certain nombre d'arbitrages qui ont dû être faits.
Il y a eu un certain nombre, mais il y en a eu un important.
Voilà. Et effectivement, je pense qu'à l'échelle de la commune de Rion, on devrait pouvoir se permettre de ne pas faire ce genre d'arbitrage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses qui sont à faire, il faut les réaliser, il faut vraiment les réaliser. Parce que là, en fait, le fait d'avoir fait cet arbitrage-là, c'est repousser un certain nombre de choses et on peut estimer, si jamais, c'est pas mon cas, être médisant, qu'on pourrait les repousser au calendrier grec et en fait, ces investissements-là et ces bâtiments communaux, aussi bien communaux et ce patrimoine communal, à un moment donné, il faut bien investir dessus.
Monsieur Chauvin, je partage totalement et c'est quelqu'un qui nous inspire dans cette dynamique-là. Le choix de cet arbitrage par rapport à la médiathèque, c'est que sur un projet comme la médiathèque, on était engagé financièrement sur un gros volume d'investissement pendant plus de 3 ans. Donc, entre les travaux, le matériel et tout ça, c'était à plus d'un million. C'était à nouveau un gros investissement à faire. Et dans la perspective qu'on a aujourd'hui, les investissements par rapport aussi, comme que vous manifestez vous aussi et que je partage, on s'est dit, soyons prudents, faisons des investissements qui nous engagent semaine année après année, en attendant de voir. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'investir, parce qu'on investit quand même sur l'église cette année, sur l'activité d'Atelier, sur l'aire de jeu, sur la marchand. Et pour autant, on se dit, voilà, bien sûr qu'on ne le fera jamais, mais faisons un investissement qui, si demain, si l'année prochaine, si on est en difficulté, on puisse augmenter nos participations et que l'on ne mette pas dans le rouge, parce qu'on sera engagé pour un gros investissement. C'est juste cet arbitrage-là. C'est un décalage, en effet, mais c'est. On ne faisait pas une crise sanitaire qui, au CIVOM, on commençait à sortir la tête hors de l'eau. Et là, on voit qu'on est en train de replonger, pas dramatiquement, mais c'est quand même très drôle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, il n'y a pas de vote sur le rapport, c'est juste de prendre acte.
La présentation et du débat.
La présentation et du débat. Du coup, je vous propose de passer au point suivant. Le point 8, qui est là aussi
Donc, présentation du rapport d'observation définitive, Chambre régionale des comptes. Donc, la Chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la communauté de communes, oui, pour les exercices 2017 à nos jours. L'examen porte sur la fiabilité des comptes, la situation financière ainsi que l'intégration communautaire. Cet examen a donné lieu à la rédaction d'un rapport dans lequel sont formulées des recommandations, mais également des observations détaillées dans la synthèse. La Chambre régionale des comptes invite le Conseil communautaire à tenir compte de l'ensemble des recommandations et observations détaillées. Recommandations générales. Petit 1. Se conformer à la durée légale minimale du temps de travail annuel de 1607 heures, en mettant fin aux jours de congé exceptionnels, dépourvus de fondement juridique, non mis en œuvre. Petit 2. Adopter un schéma de mutualisation conforme à l'article L5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales pour la période 2020-2026, non mis en œuvre. Petit 3. Renforcer l'opérationnalité du projet de territoire en le dotant d'indicateurs de suivi et d'un cadre financier articulé au pacte fiscal intercommunal, actualisé, non mis en œuvre. Petit 4. Élaborer un échéancier prospectif de commercialisation des biens afin d'anticiper un potentiel reste à charge, non mis en œuvre. Petit 5. Prévoir les conditions de remboursement par les budgets annexes de la trésorerie avancés par le budget principal, non mis en œuvre. En collaboration avec le comptable public, poursuivre l'intégration dans l'actif des biens mis à disposition ou transférés pour aboutir à un inventaire fiable et conforme à la nomenclature applicable, non mis en œuvre. 7. Respecter les règles de la commande publique afin de régulariser les relations entre l'association Loisirs, Éducation et Citoyenneté Grand Sud et l'établissement public de coopération intercommunale, totalement mis en œuvre. Observations détaillées dans le volet institutionnel. Donc les actions à mener, adoption d'un pacte de gouvernance, l'objectif étant de préciser les rôles et modalités de l'action publique. Le Conseil communautaire du 15-10-2020 a approuvé la réalisation d'un pacte de gouvernance. Schéma de mutualisation, prévoir mise en commun de moyens en matériel et personnel, mutualisation ascendante, descendante et ou services communs. N'est plus obligatoire. Au terme de l'article 80 de la loi engagement et proximité, numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, il est à noter que le rapport sur mutualisation incluant le schéma de mutualisation en intercommunalité à fiscalité propre passe d'obligatoire à facultatif par modification de l'article L5211-39-1 du CGCT. Doter le projet de territoire d'indicateurs de suivi et cadre financier. L'objectif de renforcer l'opérationnalité du projet de territoire. L'observation, élaboration des fiches actions. Action à mener, se poser la question de l'harmonisation de la politique d'abattement fiscal intercommunal. Objectif, l'équité des abattements pour l'ensemble des assujettis du territoire. Observation, avoir opportunité avec suppression de la taxe d'habitation. Action à mener, revoir pacte fiscal et financier pour l'articuler avec projet de territoire. L'objectif, véritable outil permettant au bloc communal de réaliser projets de territoire et assurer l'équilibre financier. Observation à proposer avec le nouveau mandat. Volet RH. L'action à mener, se conformer à la durée légale minimale du temps de travail annuel. Objectif, retour aux 1607 heures. Observation, retour aux 1607 heures obligatoires au plus tard le 1-1-2022. Loi du 6-8-2019 de transformation de la fonction publique. Études en cours. Action menée, revoir les conditions d'astreinte. L'objectif, contrôle de leur réalisation, conditions de leur indemnisation. Observation en cours. Régulariser les primes RIFSET pour cadres d'emploi non concernés par décret. L'objectif, suppression des heures supplémentaires non réalisées. Observation fait, décision prise le 3 mars 2020. Revoir les mutualisations ascendantes communes vers EPCI. L'objectif de fiabilisation des flux à renforcer. En observation, mise à disposition enfants jeunesse en cours. Contenir la croissance des dépenses de personnel par un suivi des effectifs et carrières et maîtrise de la politique de recrutement.
36 agents recrutés entre 2017 et 2019 hors transfert, EJ et consolidation contrat. Objectif, la maîtrise de la masse salariale. Observation, pilotage, masse salariale, tableau de bord de suivi, réunion de préparation budgétaire 2021. Volet OM, ordures ménagères, zonage de la taxe des ordures ménagères. Objectif, harmonisation du coût de service. Observation, passage à tarification incitative en 2023. Volet développement territorial, action à mener, état de l'immobilier d'entreprise actualisé à l'échelle du territoire et décliné par zone. Objectif, mesurer plus finement l'offre totale de foncier disponible et éviter le risque de surproduction. Améliorer la capacité de suivi des délais de couverture des besoins de financement, sans observation. Améliorer la coordination entre PLU communaux et orientation de l'EPCI. L'objectif, définir une stratégie communautaire en observation, exemple mentionné, étude urbaine de Caserne. Élaborer un échéancier prospectif de commercialisation des biens des EDA. L'objectif, d'anticiper un potentiel reste à charge, constituer des provisions dans la perspective du versement d'une subvention d'équilibre du budget principal vers budget annexe lors de la clôture. Pas d'observation. Volet finance comptabilité. Les actions à mener. Faire appel à des avances de trésorerie dans un premier temps, puis avances budgétaires du budget principal vers budget annexe et prévoir les conditions de remboursement par les budgets annexes de la trésorerie avancée par le BP. L'objectif, éviter les fonds de roulement nets globaux négatifs des budgets annexes reportés au budget principal. Action menée, compléter les informations budgétaires et financières, annexes budgétaires, liste des organismes de regroupement auxquels adhère le PCI, présentation agrégée budget principal et budget annexe, taux de contribution directe, base d'imposition et ratio obligatoire partiellement renseignés. L'objectif de répondre aux obligations en matière d'information budgétaire et financière sera fait sur BP 2021. Information financière et budgétaire de l'exercice à venir du DOB insuffisante et documents obligatoires à joindre non présents. L'objectif de répondre aux obligations en matière d'information budgétaire et financière du DOB sera fait sur DOB 2021. Niveau de mobilisation des ressources en section de fonctionnement par rapport aux besoins à revoir. L'objectif d'améliorer le taux de réalisation et prévision du budget afin d'optimiser le niveau des recettes en fonction des dépenses. Pas d'observation. Dépenses imprévues proches plafond réglementaire, jamais utilisées. L'objectif, diminuer le niveau d'annulation des crédits. Sans observation. Élaborer un plan pluriannuel d'investissement sur 3 ou 5 exercices. Mise en place des autorisations de programme et des crédits de paiement pour opérations importantes. L'objectif d'améliorer le calibrage des dépenses et des ressources. Démarche en cours. Toujours dans le volet finances et comptabilité. Procéder au reste à réaliser en fonctionnement. L'objectif, améliorer les résultats d'exécution de la section de fonctionnement en limitant les annulations de crédit engagées n'ayant pas donné lieu à un service fait en fin d'exercice. En observation, reste à réaliser seront intégrés pour l'exercice 2020. Procéder aux provisions pour risques et charges pour support éventuel contentieux. L'objectif, dépenses obligatoires pour groupement supérieur à 3500 habitants, sera fait sur BP 2021. Réaliser un audit avec comptable public sur les flux réciproques de subventions dans le cadre des MAD personnels. Objectif, fiabiliser la comptabilité budgétaire. Poursuivre l'élaboration d'un inventaire comptable conforme. Objectif, état de l'actif à jour. Intégrer la valeur nette comptable des biens transférés dans les procès-verbaux en collaboration avec comptable public. Objectif, fiabilité, comptabilité budgétaire. Intégrer les biens des EDA, Boussins et Marteau-Lausanne dans l'actif EPCI. Objectif, fiabilité, comptabilité budgétaire. Amortissement des immobilisations à revoir, manque des éléments dans la délibération. L'objectif, amortissement conforme aux règles comptables. Observation fait, décision prise le 15 octobre 2020. Contenir la progression des dépenses de fonctionnement au regard des recettes sur les prochains exercices. L'objectif, préserver la capacité d'autofinancement, CAF brut en nette détérioration. Toujours volet finance comptabilité. Renforcer le pilotage sur l'évaluation des coûts de partenariat enfant-jeunesse sur l'impact financier du choix des modes de gestion. L'objectif, vision globale du coût réel des services. En observation, contrôle des gestions à mener avec les services enfance et jeunesse. Renforcer la prospective sur la section de fonctionnement. L'objectif, améliorer la capacité de pilotage. Élaborer un échéancier global de la dette, dresser un profil d'extinction et ouvrir la réflexion sur une renégociation des conditions de remboursement afin d'alléger la charge de la dette. Optimiser la stratégie d'endettement et l'articuler avec la mobilisation du fonds de roulement très excédentaire. Ne pas ajouter des frais financiers qui vont s'ajouter aux charges de fonctionnement si pas nécessaire. Réaliser un endettement consolidé, budget principal, budget annexe. Volet marché public. Régulariser les relations LEC et EPCI dans le cadre de la convention de gestion des espaces jeunes CASER et BERAS. L'objectif, respecter les règles de la commande publique. Observation fait, marché réalisé en mars 2020. Donc la procédure, vous avez pu voir, donc conseil communautaire, présentation du rapport le 21 janvier 2021. Ensuite, commune membre, envoi du rapport au maire le 22 janvier 2021, et non pas 2011. Public, communication du rapport au tiers. Ensuite, conseil municipal, présentation du rapport. Et conseil communautaire, présentation, action à mener, au plus tard en janvier 2022.
Est-ce que vous avez des questions ? Merci Rémi.
Merci pour la présentation. Effectivement, il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup de mesures à prendre sur la commune. Ça me paraît très choquant, c'est une politique qui est très très jeune, qui a passé son exercice 2018-2019 à reprendre les exercices de trois EPCI déjà existants sur le territoire. Toutes les lignes qui sonnent sur l'harmonisation, la mutualisation, les règles personnelles ou autres, on est sûr que pour les administrés, ce n'était pas forcément des priorités par rapport à l'action sur le territoire qui devait être continue. Normalement, ce ne sont pas juste sur ce genre de gestion à partir de 2020. Donc, il y a de grandes chances que ça rentre réellement dans le cadre. Par contre, dans le rapport, page 40, il est souligné, et ça a été souligné aussi dans une des lignes après avoir présenté M. Mangel, qu'il reste de la marge à la communauté de communes pour, à un moment donné, mutualiser davantage et apporter encore plus de services sur le territoire. Sur la page 40 du rapport, sur le compte de résultat, les comptes de la communauté de communes laissent quand même beaucoup de marge. Et je rappelle, je pense qu'ici, il n'y a personne qui en doute, que la communauté de communes, c'est un outil et que la vocation aussi a donné et a allégé un petit peu les compétences de la commune, a donné de l'oxygène au niveau des communes. C'est ceux qui avaient conduit dans une organisation, donc les PLU, en harmonisation des PLU sur le territoire, fait partie d'une des recommandations, parce que sinon, ça crée des différences. Entre les communes et sur les compétences de la communauté de communes aussi, et qu'à un moment donné, c'est des coûts bien réels, bien forts, quand ils tapent sur des communes de notre sort. Donc il y a plein de choses encore à mutualiser à la communauté de communes et qui pourraient financièrement donner quand même un axe d'oxygénation des comptes, si je peux m'exprimer comme ici.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Je propose de prendre acte à la fois du débat, de la présentation du rapport et du débat. Nous avons terminé sur l'ordre du jour. Juste un petit point sur une question d'usage pour information. La commune commune, c'est parce que normalement, il y a un fonds de concours à des projets que portent les communes. Nous en avons bénéficié l'année dernière. Du coup, nous avons pris la décision de ne pas candidater cette année, afin de permettre aux autres communes plus petites de pouvoir elles aussi en bénéficier. Ce choix est fait aussi parce que, au-delà de ce rapport de la Cour générale des comptes, on nous alerte sur les finances très contraintes de la communauté de communes, une situation assez difficile, donc c'est une marque de solidarité vis-à-vis des autres communes de la communauté de communes. Oui.
Remarquez, dimanche matin, que la place de la libération des
Il y a eu un accident d'une voiture, il n'y a pas eu de personne blessée. Et voilà, et donc, du coup, je rencontre la personne qui a causé cet accident pendant la période de confinement, enfin, en tout cas, interdiction de sortir. Tu la rencontres la semaine mardi prochain pour échanger. Donc certainement que nous porterons plainte afin que l'assurance puisse aussi réparer, puisqu'il y a quand même à peu près, quand on estime ça, autour de 10
000 euros. Bon, c'est estimé à peu près 10 000 euros de matériel, donc il y a le radar pédagogique qui a été détruit, 11 potelets, 4 barrières, et la réfection des pavés au niveau de l'air central des allées. Donc il faut faire des devis, passer un expert. Donc pour ce faire, oui, il faut porter plainte, parce que l'assureur de ce chauffard, on ne peut pas dire autrement, ne va sûrement pas marcher du fait qu'il était alcoolisé et en dehors des heures de sortie illégale. Bon, il n'a pas pris la fuite, donc c'est déjà une bonne chose, mais bon. Alors j'ai justement vu le SDEG aujourd'hui. Concernant le radar, je ne sais plus à quelle époque si le SDEG nous l'avait installé ou pas. Donc ils m'ont dit qu'ils avaient une assurance, c'est eux qui l'ont installé. Ils ont une assurance aussi concernant ce genre de dégâts.
L'assurance de l'automobile, ça ne fonctionne pas, par contre, l'assurance de la commune.
L'assurance de la commune, oui. Mais pour ce faire, il faut porter plainte.
Et j'ai une dernière information concernant le centre de vaccination. Donc il a été transféré au gymnase, puisqu'on va monter en cadencement. Et donc il y avait plus d'espace, il fallait pouvoir mettre une deuxième ligne de vaccination. Et donc nous avons pris le gymnase et installé avec l'accord évidemment de la communauté de communes.
Il y a des activités qui ont été qui étaient en cours, qui allaient se dérouler au gymnase.
Alors il y avait plus d'activités puisque les cours en intérieur de sport, à la fois pour les adultes et les enfants, étaient interdits. Cependant, les activités devaient reprendre ce lundi. Donc on a fait ça en accord avec le collège essentiellement, puisqu'il avait prévu des activités. En échange, on leur a passé la salle de danse, parce qu'ils voulaient faire du yoga, des activités comme ça avec les élèves, sachant que les terrains de tennis aussi, le blue drone, je crois, non, pas le drone, si on avait des questions, donc le terrain de tennis, et aussi puisque aujourd'hui va faire de plus en plus beau, donc ils vont pouvoir faire quand même aussi des activités en extérieur.